VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition de 19h30 temps universel du mardi 2 octobre 2018. Abdourahmane Dia à la présentation. Voici les titres. Le président camerounais Paul Biya ne se rendra plus en zone anglophone comme annoncé hier. À Yaoundé, les jeunes disent ce qu'ils attendent du prochain président.
On souhaiterait qu'il y ait plus d'emplois, qu'il y ait de la vie économique, qu'elle soit meilleure, que la paix revienne dans les zones qui sont touchées par les crises politiques et les guerres.
L'Ouest éthiopien secoué par des violences intercommunautaires qui ont fait 44 morts selon un média proche du pouvoir. La première dame des États-Unis est arrivée au Ghana, première étape de sa tournée africaine. Et durant sa première visite en France, le ministre américain de la Défense tente de rassurer les alliés au sein de l'OTAN. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Le président camerounais Paul Biya ne s'est pas rendu ce mardi à Boya, chef-lieu de la région du Sud-Ouest, en zone anglophone, comme initialement annoncé. En revanche, il a reçu à Yaoundé le président de la Confédération africaine de football, alors que le Cameroun doit en principe organiser la Coupe d'Afrique des Nations de 2019. Emmanuel Jultap à Yaoundé.
Pas l'ombre du président Paul Biya ce mardi à Boya. Pourtant, le sous-préfet de cette ville a annoncé dans un communiqué le 28 septembre dernier l'imminence de la visite du président Biya dans cette localité. Des mesures de sécurité ont d'ailleurs été prises à cet effet depuis dimanche dernier, allant jusqu'à l'interdiction des mouvements de personnes et véhicules à Boya et dans la ville voisine de Limbé. En outre, des travaux de réfection ont été effectués sur la place de fête de Boya. Seulement, ce qui apparaissait comme une visite évidente n'a plus été confirmé jusqu'à cet après-midi par la présidence de la République. Le calendrier politique du président Biya a subi une modification avec la visite officielle au Cameroun du président de la Confédération africaine de football. Le malgache Hamad a été reçu à Yaoundé par Paul Biya. Le président de la CAF a déclaré que, citation, « la CAF n'a jamais eu un plan B au sujet de la CAN 2019 et attend que le Cameroun lui dise s'il sera prêt ou pas ». La réception de Hamad ce mardi au détriment de la visite du président camerounais en zone anglophone est, selon un analyste politique, la preuve que Paul Biya préserve plus les intérêts du football que l'avenir de la nation. Yaoundé, Emmanuel Jultap, VOA Afrique.
Et nous reviendrons sur la campagne électorale au Cameroun avec notre envoyé spécial à Yaoundé. En République démocratique du Congo, 4 miliciens Maïmaï ont été tués ce mardi dans une attaque contre une position de l'armée et 4 cadavres de personnes enlevées ont été découverts dans la région de Beni. Depuis près de 15 jours, des attaques de groupes armés locaux et étrangers contre des positions de l'armée congolaise se sont multipliées dans la région de Beni, dans le Nord Kivu et en Ituri. En Mauritanie, l'opposition dénonce la non-tenue de la première session de l'Assemblée nationale. La Constitution prévoit la tenue de la première session de l'Assemblée le premier jour ouvrable du mois d'octobre. Le gouvernement a violé cette session en refusant de l'ouvrir, a déclaré le porte-parole de la coalition électorale de l'opposition démocratique, Mohamed Ould Mouloud. Le pouvoir n'a donné aucune explication à la non-tenue de l'Assemblée dominée par son parti, l'Union pour la République. L'opposition, par ailleurs, dénonce le maintien en détention préventive du député élu en septembre, Biram Ould Da. La Guinée fête ce mardi ses 60 ans d'indépendance. Plusieurs dizaines de milliers de personnes, essentiellement des jeunes, se sont massés au stade du 28 septembre de Conakry, où s'est tenu un défilé militaire en présence du président Alpha Condé et d'une dizaine de chefs d'État africains. La première dame des États-Unis, Melania Trump, est arrivée ce matin à Accra, au Ghana, où elle a entamé sa première tournée en Afrique. Nathalie Barche.
Melania Trump a foulé le tapis rouge de l'aéroport de Kotoka devant des musiciens traditionnels et des enfants en uniforme agitant le drapeau du Ghana. Un grand merci a-t-elle lancé, tenant un bouquet offert par une petite fille, alors qu'elle était reçue par la première dame du Ghana, Rebecca Akufo-Addo. Madame Trump a indiqué qu'il s'agissait d'une visite diplomatique et humanitaire basée sur la santé et l'éducation en mettant l'accent sur le bien-être des enfants à travers sa campagne Be Best. La visite d'une maternité dans la capitale ghanéenne est au programme. La première dame des États-Unis entend promouvoir le travail de l'Agence américaine pour le développement international. En début d'année, le président Donald Trump avait annoncé la réduction de l'aide américaine dans les pays en développement et notamment en Afrique. Après le Ghana, Melania Trump se rendra au Malawi, au Kenya et en Égypte.
En Éthiopie, au moins 44 personnes ont été tuées au cours du week-end dans l'ouest du pays dans des violences intercommunautaires et selon un média proche du pouvoir, ces affrontements ont éclaté après la mort de 4 dirigeants de la région Oromia tués par des hommes armés non identifiés dans cette partie où ils venaient discuter de la situation sécuritaire. Au moins 11 corps de migrants ont été repêchés et 32 personnes secourues à la suite d'un naufrage lundi au large du Maroc. Une embarcation transportant des migrants s'est retrouvée en difficulté au large de Nador, dans le nord-est du royaume, ont affirmé les autorités locales.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le combat en Syrie contre le groupe État islamique est loin d'être terminé, a estimé à Paris le ministre américain de la Défense Jim Mattis. Il a aussi réaffirmé l'engagement inébranlable des États-Unis au sein de l'OTAN. Le point avec Idriss Fall.
Les États-Unis ont démontré qu'ils continuaient à faire preuve d'une détermination inébranlable dans leur engagement dans l'Alliance Atlantique, a affirmé Jim Mattis après un entretien avec le président Emmanuel Macron. Le président américain Donald Trump a souvent critiqué les pays membres de l'Alliance, en particulier l'Allemagne, d'être de mauvais payeurs et de s'en remettre à Washington pour assurer leur sécurité. Les États-Unis font du partage du fardeau une priorité, c'est aussi une priorité française, a souligné Florence Parly, ministre de la Défense. Elle a aussi rendu hommage à la coopération militaire entre les deux pays en Syrie, où la France participe à la lutte contre le groupe État islamique. M. Mattis a déclaré, je cite, « Nous sommes toujours engagés dans un combat difficile » et son homologue française a estimé qu'en Syrie, le travail n'est pas tout à fait terminé. Après Paris, le patron du Pentagone doit participer mercredi et jeudi à une réunion ministérielle de l'OTAN à Bruxelles.
Les employés de l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens ont observé une grève générale ce mardi dans la bande de Gaza pour protester contre les licenciements annoncés. Les opérations dans l'enclave palestinienne ont été largement paralysées. Les plus de 270 écoles de l'agence dans la bande de Gaza, qui accueillent quelque 280 000 élèves et tous les centres de santé et de distribution de nourriture, sont restés fermés. La grève se poursuit demain mercredi. Cette organisation explique les licenciements qui sont donc dus, qui sont la conséquence de la contribution financière américaine. Téhéran a démenti les accusations françaises selon lesquelles un diplomate iranien aurait été impliqué dans un projet d'attentat déjoué en France au mois de juin. Une fois encore, nous démentons avec véhémence ces accusations. Nous condamnons l'arrestation de ce diplomate et nous appelons à sa libération immédiate, déclare le porte-parole des affaires étrangères iranien Bahram Ghassemi dans un communiqué. En Indonésie, le bilan du séisme puissant suivi d'un tsunami a été revu à la hausse. Le dernier bilan s'élève à au moins 1234 morts au Celeb, où la police s'efforce de mettre fin au pillage. Nani Talani.
La catastrophe a aussi fait plus de 61 000 déplacés. L'armée indonésienne et les ONG peinent à bien travailler. Il n'y a pas d'équipement lourd pour déblayer et plusieurs routes sont coupées, rendant plus difficile l'acheminement de l'aide humanitaire. Les vivres, l'eau potable et le carburant sont rares. Certains survivants fouillent les décombres à la recherche de tout ce qui pourrait être récupérable. D'autres se pressent dans les quelques bâtiments qui disposent encore de l'électricité. Depuis ce week-end, Les autorités avaient toléré que la population se serve dans les magasins pour faire face au manque de nourriture. Mais d'autres ont voulu profiter du chaos pour se servir. La police est donc engagée à faire cesser les pillages. Elle a arrêté aujourd'hui 35 personnes qui avaient volé des ordinateurs et de l'argent. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU a estimé hier que 191 000 personnes ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. On passe à l'actualité économique sur le continent avec la Minute Éco présentée ce soir par Nanit Talani.
La Banque africaine de développement octroie près de 70 millions de dollars au Sénégal pour la mise en œuvre de son plan d'urgence de développement communautaire. Ce programme, qui devrait toucher 3 millions de Sénégalais dans les 12 régions, vise à réduire le taux de pauvreté en milieu rural de 67 à 54%. Il permettra la mise en place d'une centaine d'entreprises agricoles, de forages et de périmètres horticoles. Il permettra aussi la construction de 710 km de pistes rurales, ainsi que l'implantation de plusieurs centrales solaires et réseaux électriques, ainsi que 70 postes de santé équipés. Selon l'agence Reuters, l'Américain Cargill, le Singapourien Wilmar et le Français Touton, spécialisés dans les matières premières agricoles, ont fait des offres pour reprendre les actifs de l'Ivoirien Saf Cacao, évalué à 80 milliards de francs CFA. Cargill convoite l'entrepôt de stockage du groupe, qui couvre 100 000 mètres carrés. Wilmar et Touton s'intéressent à Choco Ivoire, son usine de broyage d'une capacité de 32 000 tonnes. Et pour finir, au Ghana, les frais d'expédition des cargaisons de cacao vers l'Europe vont baisser de 39 livres la tonne à 35 livres pour la saison 2018-2019.
Et Nicolas Pinon, rebonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
On démarre cette page des sports par les demi-finales de la Ligue africaine des champions.
Et le Primeiro de Agosto qui crée l'exploit en battant 1-0 à Luanda, l'Espérance de Tunis sur un but de Boua en Égypte entre Al Ahly et les Algériens de l'Entente Sétif. 1-0 pour le moment pour le National du Caire.
La Ligue des champions en Europe.
Et alors à l'instant, je viens de vous le dire, pardon, mais 2-0 hein, à la Ligue qui vient d'inscrire un second but. On passe à l'Europe, à Hoffenheim, où Manchester City était en déplacement. Victoire 2-1 pour les Citizens qui s'imposent en Allemagne. La Juventus Turin a battu les Young Boys de Berne, réduit à 10. Et Dybala a inscrit 3 buts, le coup de chapeau. Et puis depuis 19h, temps universel, à Old Trafford, Manchester United qui affronte Valence. Pour le moment, 0-0 entre les deux équipes. Dans les autres matchs de la soirée, un but partout entre le Bayern de Munich et l'Ajax Amsterdam. Le Real Madrid battu pour le moment 1-0 par le CSKA Moscou. L'AEK Athènes battu également 2-0 par le Benfica. Match nul pour le moment entre 0-0 entre le Shakhtar Donetsk et Lyon. Et l'AS Rome qui domine Psen 1-0.
Un joueur centrafricain est appelé en sélection.
Ah oui, il s'agit du milieu de terrain de Valence, Geoffrey Gondogbia. Il a été convoqué par le sélectionneur de la République centrafricaine. Gondogbia, qui a joué avec l'équipe de France en équipe de jeunes et en match amicaux, a été appelé par le sélectionneur suisse Raoul Savoie. L'ancien joueur du RC Lens, du FC Séville, de l'AS Monaco, de l'Inter Milan, possède un passeport centrafricain. Il devrait participer aux qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 avec les Fauves du Bazoubangui, notamment la double confrontation contre la Côte d'Ivoire. On rappelle, Abdourahmane, que la CAN 2019 doit se tenir au Cameroun du 15 juin au 13 juillet, mais qu'il y a des retards dans l'organisation. Ces retards ont soulevé de grands doutes sur la possibilité d'organiser la compétition au Cameroun.
Et justement, le président de la Confédération africaine de football est arrivé à Yaoundé.
Eh oui, le président de la CAF, le malgache Ahmad, qui a été reçu par Paul Biya au palais présidentiel. La CAF n'a pas de plan B, la CAF n'a jamais réfléchi à un retrait de la CAN au Cameroun, a déclaré Ahmad à sa sortie de l'audience avec Paul Biya. C'est le Cameroun qui accueille cette compétition. C'est au Cameroun de nous dire s'ils sont prêts ou non. Et on rajoute qu'une dernière visite d'inspection aura lieu d'ici le mois de novembre. Donc en principe, on sera fixé d'ici la fin de l'année, Abdourahmane, pour savoir finalement si cette CAN 2019, qui aura lieu entre juin et juillet, se déroulera bien au Cameroun.
Les Camerounais qui croisent les doigts.
Oui, on verra bien en tout cas.
Voilà, c'est la fin de cette page des sports.
Washington, D.C.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et on passe au dossier du jour. Le président Paul Biya du Cameroun au pouvoir depuis 36 ans fait face à 8 autres candidats à la présidentielle du 7 octobre. Plus de 6 millions d'électeurs sont attendus aux urnes. Les femmes et bien sûr les jeunes constituent la majorité des potentiels électeurs. Qu'attendent les jeunes du nouveau président ? Notre envoyé spécial Bagassi Koura était ce matin sur le campus de l'université Yaoundé 1.
C'est la période de préinscription pour les étudiants sur le campus. Les discussions portent sur la prochaine rentrée universitaire, mais aussi sur la politique pour ces élections de dimanche. Certains y voient clairement une opportunité qui pourrait changer leurs conditions de vie.
On souhaiterait qu'il y ait plus d'emplois, que qu'il y ait de la vie économique, qu'elle soit meilleure. Que la paix revienne dans les zones qui sont touchées par les crises politiques et les guerres. En fait, quand on retrouve le Cameroun, un Cameroun solide où le vivre ensemble, du moins, tient véritablement ses lettres de noblesse et qu'on puisse subvenir à nos besoins le plus aisément possible.
Ce que les étudiants demandent, c'est premièrement que les 50 000 soient supprimés, deuxièmement que la bourse revienne et qu'il ne soit possible de trouver du travail.
Paul Biya est au pouvoir depuis 36 ans et sera face dimanche à 8 autres candidats. Pour certains étudiants, le changement de leurs conditions de vie et de la situation générale du pays ne pourra se faire qu'avec un changement total des hommes à la tête du pays.
Nous sommes fatigués de 36 ans. Nous ne sommes pas dans un royaume ici, nous sommes dans une république. Et nous pensons qu'après 36 ans, nous n'en voulons pas personnellement au président de la République. Nous pensons qu'il a suffisamment travaillé déjà. Il a 85 ans. Il est temps pour lui d'aller se reposer.
Parce qu'en fait, on ne peut pas continuer à rester avec un président qui a 86 ans, plus de 36 ans au pouvoir. Ça gêne de le voir avec des jeunes qui ont des diplômes passés par là, mais qui ne parviennent pas à trouver ne serait-ce qu'un emploi. Vous voyez la prolifération des mototaxis, des colbox.
Je veux qu'on change le système camerounais. Franchement, il faut que ça change. Comme il nous l'avait dit, parce que nous souffrons entre nous les jeunes. Il y a trop de vieux dans les ministères et partout et consorts, mais les jeunes ne travaillent pas.
Mais à quelques pas du campus, Richard Mouiwo et son groupe d'une dizaine de supporters de Paul Biya font du porte-à-porte pour leur candidat.
On a vu que l'excellence Paul Biya était président de la République depuis 30 ans aujourd'hui. Ce qu'il a fait, il a fait beaucoup de choses. Donc on a pensé de lui soutenir, de lui donner la vote 100%.
La campagne qui s'achève ce samedi s'est jusque-là déroulée sans incident majeur, mais la participation des électeurs dans les deux zones anglophones qui connaissent un conflit sécessionniste reste la grande question de ce scrutin. Bagassi Koura, Yaoundé pour VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Mali, le premier ministre Soumaïlou Boubey Maïga rencontre les chefs de village et les dirigeants des milices d'autodéfense Paul et Dogon à Mopti. C'est à la faveur d'une visite des établissements scolaires à l'occasion de la rentrée des classes. Dans cette région du centre du Mali, des affrontements intercommunautaires entre Paul et Dogon sont souvent signalés. Yacouba Ouédraogo a joint Omar Guindo, journaliste à Bandiagara, présentement à Mopti.
D'après les informations qu'on a reçues, cette rencontre doit se tenir entre les premiers ministres et certaines communautés, notamment la communauté de Dogon et Peul.
De quoi vont-ils discuter?
Ils vont discuter essentiellement de paix et de sécurité dans les centres du pays et aussi la cohésion sociale.
Qu'est-ce qui pourrait ressortir de ces échanges-là?
Ça serait un échange franc et direct entre les véritables acteurs de cette crise. Et je pense qu'à l'issue de cette rencontre, nous estimons qu'il y aura un retour à la paix dans la zone.
On sait que sous l'égide de l'ONG, le Centre pour le dialogue humanitaire. Peul et Dogon ont initié déjà un processus de paix depuis 3 mois, mais les violences continuent. Faut-il croire en ce dialogue initié par le gouvernement?
Face à cette crise-là, il faut impliquer les véritables acteurs. Ceux-là qui ont eu à signer cet accord n'étaient pas les véritables acteurs. Mais je pense qu'il y a de cela une à deux semaines, déjà, le mouvement Dana Amasogo, qui est un mouvement de chasseurs au pays Dogon, qui a déjà signé un engagement unilatéral de cesser les feux à Sévaré. Et je pense que ça, c'est un pas très important vers le retour d'une paix durable dans la zone. Et je pense que là, vraiment, c'est la bonne démarche qu'ils commencent à suivre en ce moment, puisqu'ils ont commencé à, quand même à intéresser vraiment à ce qui concerne cet accord, les véritables acteurs de cette crise-là.
Vous aviez entre-temps dit que ceux qui ont signé l'accord de paix initié par le Centre pour le dialogue n'étaient pas les vrais acteurs. Qui sont-ils alors?
Comme vrais acteurs, je pense à ceux-là qui ont des armes et qui sont en train de circuler au niveau du pays d'Oran, sur toute l'étendue du pays d'Oran. C'est ceux que j'appelle les véritables acteurs, parce qu'ils ont les armes. Pour un départ, ils ont appelé quand même toutes les composantes de la société civile du pays d'Oran, notamment les leaders communautaires, ils sont venus, ils ont signé un accord. Et là, rien n'a changé sur le terrain. Et je pense bien que maintenant, avec ceux-là qui ont des armes, là, une fois qu'on échange avec eux et qu'ils acceptent de signer un accord, de cesser le feu, je pense bien que ça va résoudre le problème.
Ne pensez-vous pas que la solution pourrait résider dans le retour définitif de l'État dans cette partie du Mali?
Effectivement, dans l'engagement qui a été signé, les mouvements d'Anna Massagou, les mouvements des chasseurs, quand même, dans les recommandations, ils ont eu à parler de cela. Ils disent qu'il faut qu'il y ait vraiment la présence effective quand même de l'État dans toutes ces zones-là. En ce moment, vraiment, ils pensent bien que vraiment les populations se sentiront sécurisées et vraiment il y aura un arrêt quand même des attaques intempestives dans la zone.
On sait que ces personnes qui attaquent généralement les Touaregs dans cette partie du Mali là, ne revendiquent pas. Est-ce que vous avez une idée sur leur identité?
Je n'ai aucune idée sur leur identité. C'est là qu'ils attaquent chaque fois.
Qu'est-ce qu'ils revendiquent?
Ils ont quand même des convictions personnelles vis-à-vis de la situation. Je ne pourrais pas dire en réalité clairement ce qu'ils sont en train de réclamer.
C'était le journaliste Omar Guindo à Mopti.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
La loi burundaise autorise les marchands ambulants dans les quartiers périphériques, mais pas au centre-ville de Bujumbura. Malgré tout, dans les rues de la capitale, des produits sont disponibles à bas prix. Le maire est catégorique. Des raisons sécuritaires ont poussé les autorités à suspendre le commerce ambulant pour 3 mois. La population s'insurge contre cette mesure. C'est un reportage de notre correspondant à Bujumbura, Christophe Kurunziza.
Alice Senzokundwa est âgée de 23 ans et mère d'une fille. Elle habite la zone de Muira sur les hauteurs surplombant la capitale. Chaque matin, elle descend avec ses produits vivriers pour les vendre dans les quartiers de Rohero, Kiriri, Nyakabiga, Wiza et autres de la ville Bujumbura. Elle vendait des arachides et des morceaux de manioc sur l'avenue de l'université quand VOA Afrique lui a demandé pourquoi elle ne va pas dans un des marchés reconnus par les autorités administratives. Voici sa réponse.
Nous vendons ainsi dans la rue selon le capital dont nous disposons. Personnellement, j'ai un capital de 7000 francs burundais ou moins de 5 dollars américains. Avec cet argent, je suis incapable de payer l'impôt pour le marché. C'est pourquoi je préfère être une vendeuse ambulante et je circule de quartier en quartier. Les agents de la police nous surprennent souvent et prennent tout notre pauvre capital. Mais souvent, il y a des clients bienfaiteurs. Quand ils voient que la police a pris tous mes produits et l'argent vendu, ils me donnent 10 000 francs burundais pour continuer mon activité et faire aussi vivre ma fille. Je demande aux autorités de nous venir en aide pour que la police ne nous maltraite plus.
L'histoire d'Alice Nzokundwa ressemble à celle des milliers de femmes burundaises qui se battent quotidiennement pour la survie de leur famille. Cette mère de 28 ans, Nira Mbewa, qui habite en quartier UP de Bujumbura, achète souvent les produits que font circuler ces vendeuses ambulantes. Témoignage.
Pour moi, tout ce qui peut favoriser la femme à se développer, à s'autonomiser, je suis totalement d'accord. Compte tenu aussi de la pauvreté du pays, c'est la femme qui en est victime en premier lieu. Alors si la femme parvient à se lever, à être active, à essayer de sortir de cette situation de pauvreté, de vulnérabilité. Moi, j'encourage totalement la femme.
Cette autre femme, qui n'a pas voulu donner son identité, reconnaît que les vendeuses ambulantes rendent service aux clients.
Premièrement, je les aide dans leur épanouissement. Et moi, ça m'arrange quand je vais acheter quelque chose ou bien là où je veux. Je trouve ces choses dans un endroit qui n'est pas beaucoup plus loin et aussi à moins cher. Vu que les conditions d'aujourd'hui sont plus chères alors qu'on n'a pas de moyens suffisants d'odeuse, ça les aide dans leur nourriture.
Le maire de la ville de Bujumbura, une réunion sera prochainement programmée pour trouver une issue à ce problème, Freddy Mbolima.
Pour des raisons de sécurité, pour des raisons de salubrité, nous avons demandé à ces femmes et aussi à d'autres commerçants ambulants d'attendre et d'exercer leur métier dans les différents quartiers. Mais le centre-ville, étant donné que c'est le miroir, Nous avons demandé qu'on puisse discuter avec ces gens pour trouver une solution durable et pouvoir les encadrer efficacement pour ne pas retourner en arrière au point de vue sécuritaire et au point de vue salubrite.
Le porte-parole de la police indique que la police n'a pas interdit le commerce ambulant en mairie de Bujumbura. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
L'AGOA, la loi sur le développement et les opportunités africaines, a été adoptée en mai 2000 par le Congrès et signée par le président américain Bill Clinton. Ce traité prendra fin en 2025. 18 ans après, l'AGOA a-t-il profité réellement à l'Afrique ? Eric Manirakiza a joint à Dakar le responsable du cabinet Trade Up Africa qui aide les entreprises africaines à pénétrer le marché américain. Il s'agit de Martar Thiam.
Le pétrole en a vraiment bénéficié. D'ailleurs, c'est le pétrole qui faisait les deux tiers de l'exportation sur les États-Unis. Ça a ouvert le marché américain aux produits africains, aux pays africains qui faisaient du pétrole. Le textile aussi au début, certains pays comme le Lesotho et autres en ont profité pour faire booster les exportations de textiles. Mais ces dernières années, on a noté une régression en termes de variété de produits. L'essentiel pour l'Afrique, c'était de surtout les produits agricoles aussi, qu'on aurait dû, l'agriculture africaine, qu'on aurait dû booster pour profiter de la disponibilité des terres et des produits agricoles. Malheureusement, sur ce point, on n'a pas fait beaucoup d'efforts. Les rares efforts qui ont été couronnés de succès, mais à une échelle assez réduite. Non, l'enjeu maintenant, c'est l'industrialisation de l'Afrique, la capacité à pouvoir faire des produits manufacturés. À mon avis, c'est un bilan mitigé pour moi. L'esprit aussi dans lequel les Africains s'étaient engagés était plus dans une logique d'aide plutôt que d'utiliser une opportunité commerciale que la loi offrait.
Où est-ce que ça bloque exactement?
C'est au niveau de la conscience politique des gouvernements africains. Parce que dans la logique, la plupart des pays africains avec lesquels nous avons travaillé à l'époque avec l'USAID pour booster les exportations, ils étaient plus dans une logique attentiste de dire que c'était le gouvernement américain au gouvernement de faire les efforts pour les pays africains. Alors que dans l'esprit des Américains, c'était plus donner une opportunité. Donc c'est ce changement de paradigme et de mentalité qui n'a pas été suffisamment pris en compte pour que les Africains eux-mêmes s'engagent et voient l'opportunité et développent leur propre stratégie de pénétration des marchés. Nous l'avons réussi sur certains produits.
Quels sont ces produits?
Sur le plan agricole, par exemple, je sais que pour l'exemple de l'Afrique de l'Ouest, il y a eu des confitures qui ont été bien vendues aux États-Unis parce qu'on passait à des foires là-bas, notamment les confitures, les jus, et les hibiscus aussi, les nouveaux produits healthy, là, le moringa et autres, qui ont commencé à intéresser les produits ghanéens notamment, qui commençaient à traverser l'Atlantique. Et au niveau aussi des produits artisanaux, il y a eu un rush, parce qu'on a utilisé le Burkina en tant que hub pour pouvoir inviter tous les producteurs africains d'art artisanaux et qui ont été bien vendus et qui continuent d'ailleurs aujourd'hui, ça se passe très bien. Au niveau aussi, je sais que du cosmétique, le shea butter, le beurre de karité, il y a eu beaucoup d'acquis et les noix de cajou aussi ont beaucoup profité de ces opportunités.
Et la tchéquée?
La tchéquée, on a pu faire des packaging adaptés aux normes et ça a commencé à intéresser des restaurants africains au départ et qui ont commencé aussi à intéresser le public américain à ces genres de produits.
C'était Martar Thiam, responsable du cabinet Trade Up Africa à Dakar. Avec ce titre du Bembeya Jazz de Guinée qu'on se quitte, merci à Sims Loumami qui a mis en onde cette édition. Présentation Abdourahman Diar. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.